3, c'est Emmanuel. Et il va terminer l'évangile avec sa dernière promesse. Et la promesse que Jésus va faire, il va dire, « Je suis Emmanuel. » Non, il va dire, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Emmanuel, en hébreu, « Emma », qui veut dire « avec » ou « parmi ». Nu, qui veut dire nous, puis elle, qui veut dire Dieu. Emma, nu, elle. En réalité, en français, Noël, c'est pas mal attaché à ça. Elle pour Dieu, na ou nu pour nous, Dieu avec nous. Noël et Emmanuel, c'est assez proche en français. C'est encore plus clair en anglais, là, Christ. Miss, alors il y a le nom de Christ dedans, mais Noël, c'est pas si loin non plus même du thème du thème chrétien de Noël. Et je veux qu'on regarde ensemble des textes ce soir là. Et j'ai deux questions. Qu'est-ce que ça signifiait pour Jésus d'être Emmanuel? À quoi ça l'engageait lui Jésus? Quel contrat ça comprenait pour Jésus quand il a décidé d'être Emmanuel, Dieu avec nous? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça signifie pour nous que Jésus soit Emmanuel? Mais avant de se lancer dans des beaux textes, on va demander à Dieu sa grâce. Seigneur, on va célébrer encore bientôt Noël, le fait que tu es descendu du ciel pour partager, pour venir parmi nous. Et Seigneur, ce soir, on veut juste encore être rappelé de ce geste que tu as fait, de quitter ton ciel pour venir parmi nous. Et pas juste voir qu'est-ce que ça nous a donné de recevoir le cadeau du ciel, mais qu'est-ce que ça t'a coûté à toi d'être le cadeau du ciel. Alors Seigneur, dirige-nous simplement dans l'étude de ta parole ce soir et édifie-nous de ton amour. Et Seigneur, de ta grâce qui continue à se manifester dans nos vies parce que tu es encore Emmanuel, Dieu avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dirige-nous, Seigneur, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Que vous ensemble, qu'est-ce que ça coûtait à Jésus? Quel était son engagement? Quel était son contrat de prendre ce titre-là, Emmanuel, d'après vous? C'était un contrat. Pour lui, c'était mortel, oui. Pourquoi c'était mortel? Parce qu'il est mort à la croix, c'est ça? Hein? Il allait se faire rejeter. Sacrifice. Alors, certainement une notion de qu'est-ce que ça voulait dire Dieu avec nous? Substitution. On va voir ça. Il est mort à notre place. Ça, c'est très évident. C'est ça que ça voulait dire. Quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour nous. Ça voulait dire ça. C'est un beau titre, Emmanuel. Mais en descendant, ça voulait dire mourir, substitution, d'autres choses que ça voulait dire. Oui, Julie. OK. Le contrat de venir dans la boîte puis rester propre. Pourquoi ça? Pourquoi c'était nécessaire que Emmanuel vienne? Et pour lui, quand il venait, c'était « je m'en viens dans un monde pécheur puis je reste propre ». Pas lui qui demeure sans péché? Pour la validité du sacrifice. Moi, j'ai employé le mot « identification ». Pour qu'il puisse payer pour mes péchés, il fallait qu'il soit pur lui-même. Alors, quand Dieu s'est fait homme, Luc emploie le nom de Jésus d'une autre manière, l'évangile de Luc. Il dit qu'il est toujours le Fils de l'homme. Il est venu comme Fils de l'homme. Être Emmanuel, ça voulait dire s'identifier aux hommes, de son baptême jusqu'à sa résurrection. Il est venu en homme. Lui qui était Dieu, Dieu avec nous, ça voulait dire vivre en être humain. C'est-tu le fun, vous pensez? C'est-tu un projet merveilleux pour lui? Je m'en vais vivre comme un être humain. C'est le fun. J'avais hâte de ça. Non. Il venait dans un monde bien différent qui allait le rejeter plutôt que de l'accueillir. Substitution, identification. J'en ai deux autres, mais qu'est-ce que ça voulait dire pour Jésus venir ici? Après ça, on va voir un peu des textes qui soutiennent ça. Un géant... Oui? Mortification. On va prendre substitution. Là. Il est mort à ma place, là, c'est ça. Mais je sais pas si oui, ça l'a mortifié, peut-être. Là. Mais j'emploie la notion incarnation. En réalité, c'est ça, Noël. Noël, on célèbre en particulier un élément. Dieu qui s'incarne. Qu'est-ce qui est arrivé à Dieu pour qu'il devienne homme? Qu'est-ce que ça... Où est-ce qu'était Jésus il y a 10 000 ans? Il était au ciel. C'était quoi son environnement? Ça devait être pas pire. Dans la gloire. Et là, Emmanuel. Quel beau mot, quel beau nom que celui d'Emmanuel. Mais pour Jésus, ça voulait dire quitter sa gloire pour venir s'incarner, ça voulait dire ça, s'identifier, venir en être humain, s'humilier, exactement, on va tourner dans, et le quatrième, on va commencer par l'incarnation, puis le quatrième, je trouve encore, l'intercession. Il est impossible pour les hommes d'aller vers Dieu, et Emmanuel, ça voulait dire Dieu s'en vient vers nous, pour nous d'ouvrir le chemin vers le ciel. Personne n'est monté au ciel, j'en disais, si ce n'est celui qui est descendu pour qu'on puisse nous monter vers le ciel. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Premier élément, l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Tournez dans Philippiens chapitre 2. On va essayer de digérer ça un petit peu. Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8. Quelqu'un peut lire Philippiens 2, les versets 5 à 8. Quelqu'un? Vas-y donc, Fred. OK, alors il fallait prendre le verset 9 parce que c'est encourageant après. Qu'est-ce que ça voulait dire pour Jésus, l'incarnation, dans ce texte-là? Quel mot que l'on a? OK, ça voulait dire d'abord une relation avec le Père. Le Père est-tu Dieu? Le Fils est-tu Dieu? Qui va aider les hommes? Il aurait pu se chicaner. Il n'a pas pris ça comme une proie de dire, moi, je suis égal à toi, Père, alors toi, tu y vas, puis moi, je reste. Il n'a pas regardé ce qu'il était. Il était égal au Père, Dieu. Il n'a pas regardé ça comme quelque chose à mettre en valeur devant l'autre. Mais qu'est-ce qu'il a fait à la place? Parce qu'il a voulu prendre le nom d'Emmanuel? Il s'est dépouillé. Puis il y a plein, dites-moi des verbes qui dans ce texte-là qui donnent cette notion-là. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié. Il y avait d'autres verbes dans la lecture. Abaissé. Pris la forme d'un serviteur. De quoi Jésus s'est-il dépouillé? OK, de la gloire qu'il avait auprès du Père. Alors, il était un Dieu glorieux, puis il naît sous la forme d'un serviteur, pardon, d'un bébé humain, d'un serviteur, d'un roi puissant, même pas là, d'une petite famille, dans un sens, pauvre, dans une crèche. Ça fait une différence, là, avec la gloire céleste. Il s'est dépouillé de sa gloire céleste en prenant une forme de serviteur. Un autre élément qui s'est dépouillé, oui, de sa toute-puissance. Est-ce qu'il a arrêté d'être tout-puissant? Hein? OK, c'est ça, mais je sais que c'est ça que je voulais dire, puis je voulais te le faire dire. Il n'a pas arrêté d'être tout-puissant, mais il a arrêté d'utiliser à ses propres fins, si je pourrais dire, ça, puis ça, comment j'écris ça? Il s'est dépouillé de la démonstration de ses attributs divins. c'est ça que tu disais, là. Il n'a pas arrêté d'être Dieu, mais il a arrêté de démontrer. Il aurait pu être 3 ans sans manger, là, lui, là. Il aurait pu faire ça, mais il est apparu, la Bible dit, comme un simple homme. Pas comme un super magicien héros qui avait toutes les capacités, qui pouvait faire ce qu'il veut n'importe quand, là, qui était Dieu. Tourner le cœur des gens, puis, comme je dis, faire venir la nourriture autour de sa table tous les matins. Il aurait pu faire ça, il était Dieu, il n'y avait pas... Mais il a choisi de pas démontrer ses attributs divins. Est-ce que ça l'a... De sa propre autorité, il est devenu un simple homme. Est-ce qu'il a manifesté être Dieu sur la terre? Oui. Est-ce qu'il a pris ça par son propre autorité? Oui. Il y a un autre mot qui est dans le texte. Il s'est rendu esclave, hein? Obéissant. À qui? À quoi? À son Père. Alors qu'il n'avait pas cette notion-là de soumission, d'obéissance, il s'est rendu obéissant. Il s'est dépouillé de sa propre autorité pour être continuellement soumis à l'autorité du Père. Être rempli de l'Esprit, et c'est pour ça qu'il pouvait manifester la puissance divine, comme on mentionnait, mais il était complètement soumis. Dépouillé de sa gloire céleste, il a pris la forme d'un serviteur. Dépouillé de sa propre autorité, il est devenu obéissant. Dépouillé de la démonstration de ses attributs divins, il est devenu un simple homme. Dépouillé, j'ai mentionné, des richesses éternelles. J'aime Psaume 45 qui dit, on le chante là, revêtu de fin lin, voyons c'est quoi ce chant, palais d'ivoire. Il était dans un palais d'ivoire, revêtu de fin lin, la myrrhe et la casse, c'était ça, c'est le psaume 45, les versets 8 et 9, qui nous mentionne Dieu dans sa gloire, dans sa richesse. Et il vient ici sur terre, est-ce qu'il va expérimenter cette richesse-là? Non. En réalité, il ne faisait pas partie des grands de la société, il faisait partie des pauvres, il n'a pas eu de maison. Pas eu place même pour, il n'y a pas eu une maison pour coucher. Il dit les loups ont des tanières, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme, lui, il n'a même pas une place pour mettre sa tête. Là. Il n'était pas parmi les riches. Il a son. On l'a placé dans un tombeau emprunté d'un autre. Il n'avait même pas de place pour s'enterrer. Il s'est dépouillé des richesses éternelles. Et j'allais dire, finalement, quand il s'est humilié puis qu'il est venu ici, à la croix du calvaire, il a même dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il s'est dépouillé à un moment donné de la faveur divine. Ah, c'est quelque chose quand je pense à ça, là. Emmanuel, pour Jésus, ça veut dire « je m'incarne, puis en m'incarnant, à un moment donné, je vais être séparé de la communion éternelle que j'avais avec le Père. Je vais recevoir sa colère. » C'est un beau mot, Emmanuel. Dieu qui s'incarne, qui vient prendre la forme humaine. Il prend la forme humaine parce qu'il veut s'identifier avec nous. Un autre passage. Matthieu 1:1, il nous dit qu'il est le fils d'Abraham, le fils de généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il est fils de l'homme. De son baptême à la résurrection, Jésus est devenu le modèle humain. Il s'est identifié à nous. Et comme on a dit tantôt, pas à nous à se traîner dans la boue comme nous on se traîne dans la boue. Lui est venu parmi nous. Il s'est identifié avec nous, sauf, il y a une chose qui ne s'est pas identifiée avec nous autres, sauf le péché. Il est demeuré l'homme parfait, comme Hugues mentionnait, l'obéissance active. tu disais ça, il a obéi jusqu'à la fin, il n'a pas péché, parce qu'il s'est identifié à nous. C'est toi qui disais ça à peu près, là. Oui, j'en viens. Tout ce qu'il voit le Père faire, le Père, il le fait. Alors, il s'était soumis, alors était devenu obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'était son désir d'incarnation. Et Jésus, comme humain, Il a modelé le comportement humain, mais comme humain, il y avait certains rôles. Quel rôle Jésus a-t-il joué sur la terre, comme en s'identifiant avec nous? Quel rôle? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Oui, il est un modèle Hein? Oui, il est venu pour servir, oui, Danny? Médiateur. OK. Alors, quels êtres humains sur la terre étaient les médiateurs qui est venu être l'image? Les sacrificateurs. Jésus est venu comme un homme, un sacrificateur. Alors, maintenant qu'on en a un, on est capable de trouver les deux autres. Oui, Karel? Il est venu comme enseignant. Quel était dans l'Ancien Testament l'être humain qui avait la responsabilité d'enseigner en particulier? Le prophète. Jésus est venu comme prophète. C'est lui qui nous a communiqué le message de Dieu. C'est lui qui est venu offrir le sacrifice parfait et est venu dans un troisième rôle. Modèle, oui. Le roi, c'était ça, tu disais? Accomplir la loi, c'est ça, mais dans son modèle parfait, il devait accomplir la loi et il était roi aussi. Trois textes que j'aimerais qu'on regarde. Deutéronome, chapitre 18. Quand Jésus s'est identifié sur la terre, s'est identifié à nous, il s'est identifié comme le prophète par excellence qui était promis. Deutéronome 18, les versets 15 à 19. Et quelqu'un pourrait lire ça aussi. Deutéronome 18, 15 à 19. Vas-y, Jacinthe, après ça, André prend un autre. OK. Qu'est-ce qui est arrivé du temps de Moïse? Moïse rappelle ça à Deutéronome. Il dit, quand Dieu a voulu parler aux hommes la première fois, où c'était? Au Sinaï, à Horeb, au Sinaï. Puis comment ça a été quand Dieu voulait parler? La montagne a tremblé. Il y avait le feu. Puis les gens qui entendaient la parole de Dieu, comment ils ont réagi? Hein? La peur, assez, non, Dieu, parle-nous pas comme ça. Il a dit, on voudrait à la place que quelqu'un parle au nom de Dieu, que ce soit un prophète qui parle au nom de Dieu. Puis Dieu dit, ce qu'ils ont demandé, c'est bien. Puis il a dit à Moïse, plus tard, je m'en vais leur susciter un prophète comme toi, puis ils vont devoir l'écouter. Celui qui écoute mes paroles, Jésus disait, il écoute les paroles du Père. Là. Celui qui me rejette, qui rejette mes paroles, qu'est-ce qu'il fait? Il y a son juge, il rejette aussi le Dieu qui m'a envoyé. Je vais vous envoyer un prophète. Et Jésus est l'accomplissement ultime de Dieu qui s'identifie avec nous pour nous communiquer, pour être un prophète. Hébreux chapitre 2, verset 14. Jésus s'identifie, en étant Emmanuel, il s'identifie aux êtres humains comme prophète de Dieu par excellence, comme sacrificateur fidèle, comme sacrificateur par excellence aussi. Hébreux 2, 14 à 17. André, tu veux lire? OK. C'était quoi le problème des hommes, des êtres humains? Dans le verset au départ, là, verset 14, on était esclaves de... On était impuissants face à la mort, puis à celui qui tenait le pouvoir sur la mort. On était toute notre vie en crainte de la mort. Et pour enlever cette crainte-là, pour vaincre le diable, Emmanuel est arrivé. Il voulait faire quoi? Il est venu. Oui, Simon? Jésus disait, voici celui que vous allez craindre. Craignez pas celui qui peut toucher notre corps, puis aller jusqu'à la mort, mais qui est limité là. Craignez plutôt celui qui n'a pas juste le pouvoir de la mort, mais le pouvoir de l'éternité. Est-ce que c'est possible que Dieu permette à l'adversaire de nous toucher jusqu'à la mort? C'est la même chose que la maladie, c'est la même chose que toutes les détresses que l'on a là. Est-ce que Dieu permet à l'adversaire de nous toucher dans notre corps puis qu'on ait des maladies, par exemple? Oui. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la mort? Oui, je pense que c'est la limite. Mais c'est toujours à l'intérieur de la permission de Dieu. Mais ça se limite là. Ça se limite là. Et Jésus, par sa mort, il vint le pouvoir, il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Mais en réalité, c'est ça que ça dit, là. Il y avait la puissance de la mort. La puissance de l'adversaire sur la mort n'est pas indépendante de Dieu, là. Elle est toujours soumise à Dieu, comme on le voit avec Job, par exemple. Mais voilà jusqu'où il pourrait aller. Mais Dieu, lui, il n'a pas juste la mort, il peut donner la mort et l'éternité avec lui ou l'éternité sans lui. Alors, Jésus s'identifie et il est obligé. Il prend lui aussi la chair et le sang parce que... Pourquoi est-ce qu'il va prendre la chair et le sang? Il s'identifie à nous, puis il va être capable par conséquent de devenir, il nous mentionne, verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, il s'est identifié, il est devenu semblable à nous, pour de manière à devenir un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur qui va être miséricordieux, puis qui va être fidèle, puis qui va faire aussi l'expiation des péchés du peuple. Intéressant, Jésus va être à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Il va faire l'expiation du peuple en s'offrant lui-même en sacrifice. Il est prophète, il est souverain sacrificateur. Matthieu chapitre 2. L'évangile de Matthieu. Matthieu présente Jésus comme un autre domaine, dans une autre particularité. Si Luc présente comme le Fils de l'homme, Marc le serviteur, Jean, le Dieu éternel. Matthieu présente Jésus comme le roi. Alors, Jésus s'identifie à l'être humain comme roi. Chapitre 2, verset 1 et verset 6. Quelqu'un peut lire ça? Matthieu 2, 1, puis Matthieu 2, 6. Oui? T'es prêt? Priscilla, tu me regardes. Là. Je pense que ça veut dire oui, ça. Et j'ai oublié. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? OK, c'est ça. Verset 6 maintenant. OK, comment il décrit Jésus ici? Les mages, ils viennent voir, puis il dit, où est le roi? Jésus est le roi. Et là, il cite les Écritures de Bethléem, terre de Juda. De toi va sortir un chef. Il est roi, il est chef. Puis qu'est-ce qu'il va faire aussi, ce chef-là? Il va paître, il va être berger aussi. Il ne sera pas un roi despote comme Hérode, mais il va être un roi qui va être un vrai chef. Qui va être un vrai pasteur, qui va paître. Jésus s'incarne, Jésus s'identifie à nous comme prophète, comme sacrificateur, comme roi. Jésus, quand il a pris le contrat de s'appeler Emmanuel, il a aussi été la substitution. Il est venu pour prendre la place de l'être humain. Et prendre aussi son châtiment. J'aurais aimé qu'on tourne dans Lévitique, chapitre 22, les versets 17 à 21. Mais ça nous expliquait comment on pouvait faire des offrandes. Et est-ce qu'on pouvait offrir de n'importe quoi à Dieu? Les bêtes que l'on offrait, ceux qui n'étaient pas payantes, ceux qui étaient pas qui boitaient, on offrait ça à l'Éternel? Non, c'était absolument... Alors, quelle sorte d'offrande est-ce qu'on devrait offrir à l'Éternel? Toujours le meilleur, parfait, sans défaut, sans tâche. Et Jésus est ce sacrifice aussi substitutif qui est sans défaut, qui est sans tâche. Regardez Hébreux chapitre 2. Hébreux 2, les versets 9 à 11. Cette notion de substitution. Jésus, quand il est devenu Emmanuel, il est devenu le substitut, le sacrifice parfait pour nos péchés. Quelqu'un peut lire Hébreux 2, 9 à 11? Oui, merci Nancy. Et il y a des belles affaires là-dedans. Comment il mentionne qu'il est devenu notre substitut. Maintenant, Jésus, on le voit couronné de gloire parce qu'il a souffert la mort pour tous, au verset 9. Il convenait, imaginez, celui pour qui, puis par qui sont toutes choses, quel était son désir à Dieu, à Jésus, pour qui sont toutes choses, qu'est-ce qu'il voulait, lui? Conduire à la gloire beaucoup de fils. Par conséquent, il est venu sur terre, il s'est substitué, il a souffert la mort pour tous, et il est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Et c'est pour ça, il dit que celui qui sanctifie, puis ceux qui sont sanctifiés, Jésus et nous, on est issus d'un seul. C'est pourquoi Jésus a pas honte de nous appeler ses frères. C'est quelque chose. Il vient, il prend la position de notre frère pour substituer, souffrir la mort pour tous. C'était tout un contrat d'être Emmanuel. Et finalement, comme je mentionnais, la notion d'intercession, bien, nul ne vient au Père que par moi. Jésus est venu ici-bas parce qu'il est devenu l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Vous connaissez 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, celui qui s'est incarné, celui qui est devenu Emmanuel. C'est merveilleux, ça. En tout cas, pour nous autres, c'est merveilleux. Pour lui, c'était toute une affaire. Ben, c'était tout un coup d'être appelé Emmanuel, parce qu'il s'incarnait en être humain, parce qu'il s'identifiait à nous, parce qu'il nous remplaçait et parce qu'il devenait l'intermédiaire pour nous amener au ciel. Et une fois qu'il est parti, qu'est-ce que je gagne, moi, aujourd'hui à considérer? Quand il est parti, Jésus a dit, « Je suis avec vous maintenant tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle différence que ça fait, Emmanuel, aujourd'hui, maintenant qu'il a tout fait ce que l'on a mentionné, puis qu'il est au ciel. Ça fait-tu une différence dans nos vies? Le fait que Jésus soit venu sur terre, quelle différence ça peut faire? OK. Maintenant, c'est juste quelques-uns qui veulent communiquer avec Dieu. Oui. Oui. Oui, il y a un accès, on a un accès auprès de lui, tout le monde a un accès auprès de lui. Oui. Qu'est-ce que je gagne à ce qu'il soit ressuscité, à ce qu'il soit encore Emmanuel, Dieu avec nous? C'est notre avocat. Alors, il y a toute une notion de compréhension. Il me comprend et il me défend, il me protège. Je sais pas. Non, j'ai pas écrit Hébreux 7 dans ma section. OK. Alors, il y a certainement cette notion-là pour les inconvertis. Puisqu'il est Dieu avec nous, il est encore le sauveur parfait de tous ceux qui s'approchent. Mais par la suite, comme Hugues mentionne, il est l'avocat, il intercède, il prend notre cause. J'ai d'autres éléments, j'en ai mis 4, mais vous êtes bons, vous autres. Il y avait d'autres affaires que... Oui? On peut appeler Dieu Père, la notion de relation, Ghislain. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, Christ vit en moi? Okay. La présence, parce qu'il est vivant, sa présence est en moi. Des belles choses. Et qu'est-ce que ça fait de différence que sa présence soit en moi? On peut marcher, on a la puissance de marcher. C'est un élément, je mettais la sanctification. Jésus est notre modèle et notre puissance en nous par son esprit. Alors, le fait qu'il est encore Emmanuel, Dieu avec nous, il m'aide dans la sanctification. 1 Corinthiens 1, les versets 30, 31, Jésus est notre justice, Jésus est notre sanctification, Jésus est notre glorification. Chose merveilleuse. J'ai mentionné, puisqu'il est encore Emmanuel, Dieu avec moi, il me comprend. Peut-être on peut tourner Hébreux chapitre 5. Il connaît parfaitement ce que je peux ressentir. Quand on est tenté, quand on est stressé, quand on est devant quelque chose qui nous semble impossible, est-ce que je peux m'adresser à Dieu, à Jésus? Et est-ce qu'il comprend? Tu sais, des fois, mes enfants ils me disent, « Pourquoi tu ne comprends pas? Tu n'as pas passé par là. » Des fois, ils ont bien raison. Je n'ai pas pensé par les tentations qu'eux autres peuvent avoir. Mais est-ce que je peux dire ça à Dieu? Dieu, tu ne comprends pas. Là. Moi, tu vois, je donne une situation puis tu ne comprends pas ce qui se passe. Non! Il comprend, il dit, il est venu, puis il a été tenté comme nous dans tous les domaines. Il nous comprend parfaitement. Et il est plein de compassion. Il a la capacité d'intervenir dans notre vie. Et Bruce... Oui, Monique? Il est le rédempteur. Et, en venant porter nos péchés sur la croix, il est maintenant disponible à sauver quiconque s'approche de lui, un peu comme Danny mentionnait. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Il est mon rédempteur, celui qui m'a racheté de mes péchés. Et parce qu'il m'a racheté, maintenant il est prêt à me transformer. Il est encore vivant, puis il est prêt à me transformer, à me sanctifier. Hébreux chapitre 5, on a dit, les versets 1 à 6. Cette notion de un Dieu qui comprend, qui sympathise avec moi. Quelqu'un peut lire les 6 premiers versets? Vas-y, Danny. OK. Dans l'ancienne alliance, quelle sorte de monde était sacrificateur? Hein? Des Lévites, oui. Puis qu'est-ce qu'il y avait comme caractéristique humaine, ces Lévites-là? Hein? Ils lévitaient. Les gens lévitaient. Ils étaient... Hein? Oui, c'était de père en fils, évidemment. Mais il nous mentionne, eux autres, ils présentaient des offrandes et des sacrifices pour qui? Pour eux-mêmes. Alors, comment ils fonctionnaient? Les gens qui avaient des péchés, ils venaient auprès du sacrificateur. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient auprès du sacrificateur? Ils mettaient la main sur le bouc, puis ils confessaient leurs péchés. Oui, le sacrificateur, lui, il les égorgeait. Mais fallait qu'il aille au sacrificateur, puis fallait qu'il confesse qu'il avait péché, qu'il était humain, qu'il était pécheur, qu'il était repentant. Puis le sacrificateur, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il restait loin, puis il dit, « Oh, pécheur que tu es, hors de moi! » Quelle sorte de monde que ça prenait comme sacrificateur? Ça prenait des gens qui avaient de la compréhension, qui avaient de la compassion pour les ignorants, puis les égarés. Il fallait qu'ils soient là pour rediriger, il fallait qu'ils aient de la compassion, il fallait qu'ils comprennent le monde avec le problème pour être un bon souverain sacrificateur. Puis ça, c'était donné par Dieu, selon l'ordre d'Aaron, mais Christ, lui aussi, il est souverain sacrificateur. Sauf qu'il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices pour ses propres péchés d'abord, puis pour ceux du peuple, il n'y avait pas de péché. Mais il est ce souverain sacrificateur. On peut s'approcher de lui. Il comprend nos tentations. Il comprend nos limites. Et lui-même, si on avait continué, lui-même, il a, au verset 7, il a prié avec des grands cris, des supplications de celui qui pouvait le sauver de la mort. Lui-même s'est adressé à son père à un moment donné avec des prières où il demandait la compréhension de son père. Compréhension, j'aime ça. Si Jésus est Emmanuel, Dieu avec moi, je peux m'approcher de lui, puis il comprend, il a vécu parmi nous. Il connaît nos tentations, il connaît nos limites, il a de la compréhension pour les ignorants, les égarés. Mais la faiblesse ne fait pas partie de son partage de Jésus. Et non seulement il a de la compréhension, mais il a de la compassion. Regardez chapitre 4 de Hébreux encore. « si dans l'Ancien Testament ou dans les encore aujourd'hui, s'il y avait des gens qui voulaient demander grâce au roi, aux puissants, en général, c'est pas très facile d'accès. Il n'y avait pas grand monde qui s'approchait du roi pour lui demander pardon puis des grâces particulières. Il y a toujours plein de monde avant qu'on se présente au roi. Avec Jésus, c'est bien différent. On peut s'approcher de lui avec assurance. Hébreux 4, 14 à 16. Quelqu'un peut lire ça? Hébreux 4, 14 à 16. Oui, Jacinthe. OK. Il nous dit, on a un souverain sacrificateur qui est au ciel maintenant. Alors, à quoi est-ce qu'on est appelé? On doit demeurer ferme. Puis on doit aussi, verset 16, à quoi il nous invite? À s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Jésus, il compatit avec nous maintenant. Il dit, viens t'approcher de moi, de sorte que, approche-toi avec assurance du trône de la grâce, de sorte que Jésus, lui, qu'est-ce qu'il va faire à notre égard au verset 16? Il va nous donner miséricorde, on va trouver grâce, on va être secouru dans nos besoins. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Et encore, il me dit, approche-toi de moi et approche-toi du trône de la grâce, il y a un accès maintenant, je suis monté auprès du Père, il n'y a plus de barrière entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ est là, approche-toi avec assurance du trône de Dieu et tu vas obtenir miséricorde, tu vas obtenir le secours, tu vas obtenir grâce dans tes besoins. C'est formidable que Jésus soit appelé Emmanuel, Dieu avec nous, même après son ascension. Et on a mentionné tantôt la notion de sanctification, Galates 2:20, ou j'avais Romains 8:29, qui l'Esprit de Dieu habite en moi, Christ habite en moi, et son objectif, c'est de nous rendre semblables à lui. Jusqu'où il va nous rendre semblables, pour terminer? Juste dans son caractère, dans sa sainteté, on va manifester de la sainteté ici-bas. Jusqu'où il veut nous rendre semblables à lui? Y a-t-il une limite? Est-ce qu'on soit parfait comme Jésus sur terre? Hein? L'humilité, certainement. Il veut nous donner l'humilité. Le courage, la sainteté, la persévérance. Ça, c'est toujours pendant qu'on marche sur la terre. La joie aussi, pendant qu'on marche sur la terre. Ah ouais, c'est sûr que je l'entends. C'est bien. Il veut me transformer à son image. Et pas juste dans ce qui est invisible et immatériel. Il veut aussi me transformer physiquement à son image. Il l'a pour plein. Parce qu'il est Dieu avec nous et il veut nous amener au ciel avec lui, il y a dans l'objectif la rédemption finale. Tournez dans Romains chapitre 8. Romains 8, le verset 17, le verset 23. Et 1 Jean, il dit, « Voyez quel amour le Père nous a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Puis là, il dit, ce qu'on va être, ça n'a pas encore été manifesté, mais ça va se manifester parce qu'un jour, on va être semblable à lui. On va le voir tel qu'il est. On va être semblable à lui. La sanctification va se transformer en glorification parce qu'on va avoir la rédemption de nos corps. Romains 8, 17, il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Il y a jusqu'à la glorification, la rédemption finale. Regardez le verset 23. C'est pas la création elle-même seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Ça, c'est ce qu'on attend pour nous aussi, la rédemption finale. Dieu avec nous, Emmanuel, encore aujourd'hui, pour moi, ça veut dire qu'il me comprend. Ça veut dire qu'il est plein de compassion. Il m'invite à m'approcher de lui pour être secouru. Il est ma sanctification. Il habite en moi. Et il est dans un processus de sanctification dans ma vie, dans nos vies, jusque comme objectif final, que nous soyons avec lui. Quand Jésus était sur la terre à la prière sacerdotale, il disait, « Père, je te prie afin que la gloire que j'avais avant de venir sur la terre, qu'est-ce qu'ils priaient à ce sujet-là? Eux aussi, ils la partagent avec moi. Dieu est venu parmi nous afin que nous puissions être avec lui pour l'éternité. Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Je regardais Luc 1, 68 et les versets suivants cette semaine en pensant à Zacharie. Il avait bien raison, Zacharie, de prophétiser quand Jean-Baptiste est né. Il disait, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Dieu a visité son peuple. Dieu est venu parmi nous. Dieu est Emmanuel. Il a racheté son peuple afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant, une image pour Dieu, le soleil levant, nous a visités d'en haut. Soleil levant, Jésus est appelé soleil levant. Jésus est appelé l'étoile du matin. Dans l'Apocalypse, je pense qu'il est appelé l'étoile du matin. Il nous a visités d'en haut. Emmanuel, hey, ça c'est un beau nom. Un beau nom qui est riche. Un beau nom qui coûtait cher à Jésus. Mais un beau nom qui est plein de valeur pour nous. Jésus dit encore, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous comprends. Je peux vous aider. Je peux vous transformer. Puis un jour, je vais vous glorifier. Puis on va passer l'éternité ensemble. C'est merveilleux. Dieu avec nous. Oui, Ghislain. Amen. Mm-hmm. Et pour sa gloire. Et ça a commencé avec Dieu qui vient dans une crèche avec une humble femme, Marie. Et il nous a inclus dans ce plan-là, merveilleux. Gloire à lui. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce temps de Noël où on se rappelle que tu as pensé à nous, tu nous as visités d'en haut. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, s'est incarné. Il est devenu Dieu parmi nous, afin que nous devenions aussi avec toi pour l'éternité. Merci Seigneur, qu'encore aujourd'hui tu es Emmanuel. Tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tu es en train de travailler dans nos vies. Et bientôt tu viendras nous prendre, afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Gloire à toi, Seigneur Dieu, pour ce beau plan de salut et pour la personne de Jésus, Emmanuel. Et on te remercie au nom de Jésus. Amen. Tu veux nous conter d'un dernier chant?
Ce qu'on a entendu, comment ne pas publier? Levons-nous et chantons ce chant. Numéro 147.